Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Madame de Lacretelle qui vient nous parler des mémoires de son aïeul, Charles de Lacretelle. 10 années d'épreuves pendant la Révolution, mémoire donc de Charles de Lacretelle sur la Révolution. Ces mémoires paraissent en 1842, Charles de Lacretelle, journaliste historien, élu à l'Académie française en 1811 à 76 ans. Il est alors le seul historien de la période à avoir vécu les événements, et à une époque où les hommes politiques, les historiens multiplient les ouvrages sur la Révolution, il éprouve le besoin de raconter ce qu'il a vécu personnellement. Il livre ainsi son histoire de la Révolution à travers son histoire pendant la Révolution. On suit donc ses combats, ses amitiés, le traumatisme causé par la terreur, l'enfermement, le tout dans un récit vivant, enlevé, qui mêle anecdotes, souvenirs, réflexions. Madame de Lacretelle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Une première question, comme je viens de le dire, ces mémoires avaient déjà été publiées, mais donc il y a longtemps, pourquoi les ressortir maintenant ?
Eh bien, c'est très simple. Un jeune professeur d'histoire de la faculté de Nantes a été incité par son maître de travail, si vous voulez, d'études, à écrire une thèse sur Charles de Lacretelle. Alors, ce jeune homme qui s'appelle Monsieur Éric Barrault est venu me trouver, je l'ai aidé, ça m'a tout à fait passionnée, ça m'a aidé à me replonger dans ce passé de mes aïeux. Et voyant cela, je me suis dit, mais au fond, ce serait peut-être... J'avais quelques exemplaires dans ma bibliothèque de cet ouvrage que j'avais trouvé touchant, personnel, peut-être d'un style un peu ampoulé, mais enfin, on est au fond en plein romantisme. Et je me suis dit, mais puisqu'il y a cette thèse de M. Barrault, il faut en profiter et on pourrait faire une réédition qui sera annotée et qui aura tout l'appareil critique nécessaire et historique nécessaire. Et alors, il y a eu une personne déterminante, c'est Evelyne Levert, qui dirige une collection chez Talendier et qui a adhéré avec enthousiasme, l'enthousiasme qui la caractérise, qui a adhéré à ce projet.
Donc, le journal de Charles de Lacretelle est en effet disponible aux éditions Talendier. Si vous le voulez bien, Madame de Lacretelle, commençons par retracer le parcours de Charles de Lacretelle. Il naît en 1766 à Nancy et se destine à la carrière juridique. En 1787, il bénéficie de l'aide de son frère, avocat à Paris, pour s'installer dans la capitale. Comment se passent ses débuts parisiens et participe-t-il à l'ébullition intellectuelle d'alors ?
Sûrement. J'ai l'impression, bien que nous n'avons pas de correspondance entre les deux frères, j'ai l'impression qu'il y avait, et que les deux frères, je reviens un petit peu en arrière, avaient une différence d'âge, mais les deux frères étaient très unis. Et tout de suite, son frère l'a introduit dans le milieu juridique, littéraire, puisqu'il a tout de suite fait la connaissance de Suard. Suard qui a été un personnage essentiel, qui dirigeait un journal, qui était très érudit, qui était à l'Académie française. Et Malesherbes, il avait donc rencontré Malesherbes, Camille Desmoulins. Il a tout de suite été pris dans le flot de ces jeunes qui vraiment brassaient les idées nouvelles avec beaucoup d'enthousiasme. Et apparemment, il a adhéré sans restriction au début, comme beaucoup, à cet enthousiasme général.
Alors en 1789, il entre au Journal des débats pour relater les séances de la Constituante, mais on le sent déjà un petit peu effrayé par ce qu'il voit.
Oui, voilà. Et alors ça, c'est très intéressant parce que, en effet, il y a certaines personnes qui, je pense, qui sont plus sensibles, plus émotives. Car, je pense, peut-être me demanderez-vous, mais comment le voyez-vous ? Moi, je le vois comme un pragmatique émotif. Ça a l'air d'un peu d'un oxymore. Et non, il est très raisonné, très raisonnable, et en même temps, très émotif. Et j'ai l'impression, en effet, que déjà certaines formules paroxystiques, la folle, ça se sent aussi, par exemple, dans le journal de Madame Vigée-Lebrun, on voit déjà que elle comprend, elle voit passer sous ses fenêtres des hordes de gens qui vitupèrent et tout ça. Et il y a quelques personnes qui ont compris assez vite, un petit peu peut-être en amont des autres.
Et ça ne va pas aller en s'arrangeant ?
Non, justement. Alors, évidemment, il est quand même, son frère, grâce aux relations de son frère, le Pierre-Louis, son frère lui fait rencontrer le duc de Liancourt, qui est une rencontre vraiment, j'ai l'impression, décisive pour lui, parce qu'il rencontre là le prototype même de l'aristocrate évolué, cultivé, peut-être, un peu, je ne sais pas, un peu utopique, mais qui vraiment correspond tout à fait à sa sensibilité. J'ai l'impression qu'il y a eu une excellente, on peut dire amitié, il devait être très déférent vis-à-vis de lui, mais enfin, excellente relation.
D'ailleurs, il écrit dans son journal, je le cite, « Si ma destinée a été fort inquiète, elle a été pour moi riche en compensation. Une de celles dont je dois bénir le plus la Providence, c'est d'avoir vécu dans la plus grande intimité, avec un des hommes les plus dignes de représenter son siècle. J'ai d'abord partagé les nobles délices de sa retraite, puis j'ai été associé à ses courageux projets, à ses périls, et j'ai eu le bonheur de lui prouver mon dévouement. » Il parle donc du duc de Liancourt. Il l'a rencontré en 1791, à peu près. En tout cas, il devient son secrétaire en 1791.
C'est ça.
Ils ont trouvé refuge au Club des Feuillants à cette époque-là. Voilà. Il va d'abord donc passer 6 mois au domaine de Liancourt aux côtés du duc.
C'est ça.
Où il va partager toute son expérience, en effet, comme vous l'avez très justement dit, de noble éclairé, j'ai envie de dire. Et après, il va donc être à ses côtés dans tous les projets que le duc met sur pied pour essayer de sauver le roi.
Oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, il est pour la monarchie constitutionnelle. Il ne cessera de le dire et de le répéter. Et c'est vraiment, pour lui, l'objectif. Là, il faut peut-être s'arrêter. Je crois qu'il y aurait un livre, peut-être a-t-il été écrit, qui serait intéressant. C'est de voir toujours à quel point l'Angleterre, la politique en Angleterre, a influencé aussi la France. Et à ce moment-là, on est les yeux rivés sur une monarchie constitutionnelle. Et comme certains aristocrates anglais le prônent, enfin, ce qui existe. Et donc, il aide le duc de Liancourt, mais surtout aussi, il sera alors là absolument déterminant quand, malheureusement, la situation s'aggravant de manière tragique, le duc de Liancourt émigre en Angleterre et c'est la Cretelle qui sauve tout ce qui peut être sauvé, lui envoie des subsides en Angleterre, fait disparaître des papiers compromettants. Et là, je crois qu'il a un rôle vraiment crucial.
Vous le disiez à l'instant, très attaché à une monarchie constitutionnelle et indirectement donc à la monarchie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans tout le passage où il est aux côtés du duc de Liancourt pour préparer donc un projet éventuel d'évasion du roi via Rouen, on le sent tout de même un peu critique à l'égard de Louis XVI. Autant très admiratif du duc de Liancourt, autant il a quelques mots parfois un peu sévères à l'encontre de Louis XVI.
Oui, mais ça rejoint ce que je ressens, j'ai ressenti en le lisant, c'est que c'est un pragmatique qui se rend bien compte que Louis XVI n'est peut-être pas à la hauteur de la tâche et de la fonction. Alors il doit être assez déchiré puisqu'il est pour la monarchie, mais peut-être pas pour ce roi-là. Et ce qui expliquera pourquoi, une fois l'Empire, après la chute de l'Empire, il se rallie vraiment sans restriction à Louis XVIII.
Alors là, nous sommes en août 1792, c'est la chute de la monarchie. Chamboulement pour Charles de la Cretelle, donc comme vous venez de le dire, le duc de Liancourt est obligé de s'exiler en Angleterre. Il a un rôle majeur pour le duc de Liancourt, mais lui, que va-t-il devenir ?
Alors, il se cache, il fait la connaissance d'une famille qui lui sera très proche et affectivement, on sent qu'il est tombé amoureux d'une des filles de cette famille. Et là, il a dû ressentir cruellement un échec sentimental parce que elle lui préfère, je crois, ça doit être le poète, Florian.
Oui, alors c'est la famille Sénéchal.
C'est ça, la famille Sénéchal. Et au fond, il ne se mariera que beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, en fait, ce livre mêle l'histoire avec un grand H et puis l'histoire privée d'un homme sensible.
Madame de Lacretel, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
L'élargissement géographique de l'Union européenne a-t-il empêché l'élargissement de ses compétences ? Le nombre et l'hétérogénéité des États membres rendent en effet difficiles les progrès de la construction européenne dans certains domaines. Pour éviter les blocages, une solution possible est le développement de coopérations spécialisées entre certains États membres autour d'objectifs précis. Écoutez les explications du sénateur Pierre Fauchon, auteur d'un rapport d'information adopté le 3 mars 2009 par la Commission des Affaires européennes du Sénat. Une émission éclairage, les rapports du Sénat, à télécharger sur canalacademy.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes toujours en compagnie de Madame de Lacretel, venue nous présenter les mémoires de son aïeul, Charles de Lacretel. Nous l'avons quitté secrétaire du duc de Liancourt et surtout au début de la Terreur. Le premier grand traumatisme pour lui furent les massacres de septembre. On le sent profondément marqué.
Ah oui. Et il fait une description cruelle, mais très, en même temps, crue de Robespierre. Son ennemi, c'est vraiment Robespierre. Il déteste les Jacobins. Il trouve Robespierre un être absolument haïssable. Ce qui est assez étrange, c'est que Pierre-Louis, son frère aîné, avait gagné. Je crois que c'était en 1784 ou 5, je n'ai pas la date exacte, un concours d'éloquence et sur Robespierre. C'est Lacretel aîné, comme on dit Lacretel aîné, qui avait gagné sur Robespierre. Enfin bref, Robespierre a toujours balisé la vie de ces deux Lacretel jusqu'à sa mort.
Au 9 Thermidor.
Oui, au Thermidor.
Date très importante pour Lacretel parce que ça signifie la fin de la période de la Terreur, mais ce n'est pas pour autant la fin des ennuis.
Non. Parce que, alors, il croit qu'il peut laisser libre cours à ses sympathies royalistes, et finalement, il doit se réfugier, en quelque sorte, pendant un an, dans l'armée. Il s'enrôle pour disparaître, en quelque sorte, et donc, il fait la guerre. Et...
Alors, nous avons, d'ailleurs, pendant ces deux années de terreur, il avait déjà essayé de se faire tout petit, si j'ose dire.
Oui, absolument.
Et il avait accepté d'être le professeur de la fille d'un obscur libraire. Et après, donc, on le voit passer dans l'armée. Tous les moyens étaient bons pour,
pour
disparaître.
Se forlonger, comme on dit. Alors, sortie de l'armée, ça ne s'améliore pas vraiment, puisque, donc, toujours monarchiste, finalement, il est emprisonné.
Oui, mais alors, il tentera quand même de se mettre presque au service des Thermidoriens, puisqu'il accepte des fonctions à ce moment-là. Et ce n'est qu'après, donc, déçu par Thermidor, finalement, en effet, il va reprendre la lutte aux côtés des royalistes.
Oui, voilà. Et là, il frôle la catastrophe absolue parce qu'il est condamné. Il est condamné à la prison et à la prison jusqu'on doit l'envoyer en Guyane. Et c'est Madame Tallien, Madame de Staël et tout un groupe d'amis, ce qui vous prouve à quel point il était introduit dans ce creuset intellectuel et politique de l'époque. Et c'est Madame Tallien dont on dit que, je ne sais si elle avait des bontés pour lui, mais elle en avait pour beaucoup, ou lui était sous son charme. Enfin, Madame Tallien arrive à commuer cette peine en Guyane, dans une prison à Paris, en Île-de-France. Et là, c'était un sort très acceptable.
Oui, puisqu'il peut recevoir sa famille.
Absolument. Et il est entouré d'êtres extrêmement érudits, de libraires, de personnages cultivés. Et il passe, on peut dire, un emprisonnement tout à fait, je ne dirais pas agréable, mais supportable.
Et c'est là, finalement, qu'il commence sa carrière d'historien.
Oui, absolument, parce qu'il commence ce précis de la Révolution française. On dit qu'il est le premier à avoir commencé à écrire sur la Révolution française. Mais après, il a eu toutes sortes de suiveurs, évidemment.
Alors, il est finalement libéré quelques mois avant la prise de pouvoir par Bonaparte, en 1799. On le sent à la fois admiratif et critique du général Bonaparte.
Oui, il est tout de même critique. Mais enfin, ce qui est curieux, et c'est pour ça que Par exemple, Madame de Chateaubriand, dans sa correspondance, est assez dure pour les frères Lacretelle, parce qu'on les considère toujours, très souvent, l'un et l'autre ensemble, est assez dure et les traite d'opportunistes. Moi, je crois, bien sûr, on peut dire qu'ils se rallient au pouvoir comme ils peuvent, mais ça n'est pas de l'opportunisme. Ils sont d'abord, ils ont avant tout le désir que la France trouve un rythme un peu supportable après les excès effrayants, et ils ne sont pas les seuls. Si on lit les correspondances d'autres personnages politiques, tout d'un coup, Bonaparte est vraiment considéré comme le sauveur. Il sort la France de cette ornière sanglante où elle s'était laissée aller. Donc, il fait partie de ces gens qui, à la fois, sont un peu réservés, bien sûr, mais quand même soutiennent Bonaparte. Et puis, évidemment, après, si tant est qu'il y ait de l'admiration, mais le soutien se distend.
Alors, les mémoires, ce journal à 10 années d'épreuves pendant la Révolution, s'arrête donc en 1799. Pouvez-vous nous dire quand même quelques mots de la carrière, du destin donc de Charles de Lacretelle après ?
Mais bien sûr. Alors, il a cumulé, ça c'est très intéressant, je trouve, il a cumulé, il a été vraiment un éditorialiste, il a participé à toute la presse de cette époque, il a écrit au débat, de tous les journaux, il a vraiment participé à l'aventure de la presse de cette époque. Il a été élu à l'Académie française au siège d'un académicien qui s'appelait Esménard. Son frère, lui, ça c'est assez intéressant, avait été élu au siège de l'ARP, le fameux l'ARP, son frère aîné. Et il a été nommé censeur dramatique. Et c'est là où, vraiment, je trouve que c'est injuste de le taxer d'opportunisme, parce que il y a toute une correspondance qu'il entretient en 1827 avec Chateaubriand. Il s'indigne des restrictions de liberté de la presse que on voudrait imposer. Et donc, il est à la fois monarchiste, si vous voulez, mais quand il voit que la monarchie dérape un peu, il s'indigne. Donc, c'est pas de l'opportunisme, c'est qu'il aime, je crois qu'il voudrait garder une ligne, évidemment, extrêmement moyenne, droite. Pas de terreur, mais pas de monarchie trop dictatoriale. Il veut vraiment une espèce de quiétude. Chose un peu utopique, forcément.
Mais qu'il avait trouvé, finalement, en Louis XVIII. Et en effet, sous Charles X, déjà...
Oui. Et alors là, sous Charles X, ça déraille et il s'indigne. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'au fond, il était fait pour réapparaître sous la monarchie de Juillet. Et bizarrement, non, il ne se passe rien, il attend la pairie. Peut-être il est-il considéré comme déjà trop âgé, il faut dire qu'il meurt à 89 ans. Et donc, il n'est plus que... C'est à ce moment-là, donc en 42, voyant que la monarchie de Juillet ne fait pas appel à lui, qu'il écrit ce livre dont nous parlons.
Il est alors retraité, entre guillemets, à Mâcon, auprès de son épouse, que vous mentionnez au début de l'émission. Il s'est en effet marié sur le tard.
Oui.
Et il s'éteint en 1855, à 89 ans.
Oui. Alors, ce qu'il faut dire, voilà quelqu'un qui a vécu 3 révolutions. Et comment voulez-vous faire la différence quand on voit apparaître une révolution ? Il a été horrifié par la révolution de 48. Ça, on le sait par les courriers qu'il échangeait avec Lamartine, qui était son ami. Il s'est dit, c'est pas possible, ça ne va pas recommencer. Et il avait vu 1830 et puis 1848. Pour ces gens, et il n'est pas le seul, beaucoup ont vécu donc 3 révolutions et sans comprendre qu'ils craignaient que chaque révolution qui arrivait ne deviennent aussi atroces que celles de 89 qu'ils avaient vécues, qui était vraiment la pire, évidemment, des 3.
Merci beaucoup, Madame de Lacretelle. J'invite nos auditeurs à découvrir ses mémoires, 10 années d'épreuves pendant la Révolution, parues aux éditions Talendier. Merci infiniment. Au revoir.